Les cours du Collège de France, Thierry Coquan, chaire informatique et sciences numériques.
Je commence par donner le plan de mon cours. Donc ce cours aura deux parties. Cette première leçon va consister en quelques remarques historiques et je vais présenter la première formulation de la théorie des types dépendants. Et comme on va le voir, donc cette formulation n'est pas très commode en fait pour étudier la théorie des types. Donc ça sera le but de la deuxième leçon, qui va être de présenter la notion de modèle, en particulier donc, les modèles de préfaisceaux, qui vont jouer un grand rôle par la suite, et la technique de recollement de modèles. Donc c'est comment construire de modèles de la théorie des types, étant donné des modèles de la théorie des types. Et cette technique de recollement de modèles, en fait, est liée à quelque chose qui avait été étudié en théorie des topos, donc c'est la technique de recollement d'Artin. Et comme je vais le présenter dans la leçon 3, cette technique est très très proche en fait de preuve de canonicité et de normalisation de la théorie des types. Donc la preuve de 1973 par Martin Loff peut être vue comme une. Je vais présenter une modification technique de cette preuve. Ça peut être vu comme une application en fait, de cette technique de recollement. Et finalement, la leçon 4 va présenter des rapports, connexions entre la théorie des types et la théorie des ensembles. La deuxième partie portera sur l'univalence et présentera des modèles qui sont des modèles de préfaisceaux. Un exemple de formation de types qui ne sont pas des ensembles, donc les espaces d'Eilenberg-MacLean, et finalement donc une preuve de la conjecture de Wovowski par Raphaël Bocquet, qui utilise cette technique de recollement. Donc en paraphrasant Bourbaki, je vais, comme la plupart des gens dans l'audience connaissent déjà, ont des notions de théorie des types, je vais me permettre d'illustrer des notions par des exemples qui se réfèrent à des faits que l'auditeur peut déjà connaître. Et je vais ces faits seront précédés de ce symbole. Alors, donc la théorie des types donc provient essentiellement donc de Principia Mathematica, donc des travaux de Russell, mais elle a été simplifiée par Church dans ce papier. Et c'est une version donc, où il y a un type des individus, un type des propositions, et on peut former le type des fonctions. Les opérations primitives pour former des propositions, donc c'est les opérations usuelles de la logique. Dans le système de Church, en suivant Principia Mathematica, le symbole de disjonction est primitif et on définit l'implication comme non P ou Q. Et les axiomes de ce système sont essentiellement ceux de Principia Mathematica. Donc j'ai fait la liste des axiomes et c'est une présentation donc qui est en fait très très formelle. Donc ces axiomes n'ont aucune motivation intuitive et dérivation de fait claire comme l'implication, donc que P implique P, n'est pas complètement directe à partir de ces axiomes. Principia Mathematica en fait avait un axiome supplémentaire qui était cet axiome là qui, comme le remarque Bernays dans sa thèse, donc peut être déduit des autres axiomes. En fait, Russell donc, avait une version stratifiée, la théorie des types, donc il introduisait une stratification du type des propositions. Donc quand on quantifie sur un objet qu'il fait intervenir le type des propositions, en fait, cette quantification-là, donc comme une quantification sur quelque chose qui fait intervenir la collection de toutes les propositions, pour Russell, cette proposition-là n'est pas dans le type des propositions, mais dans le type suivant des propositions, donc O1. Russell illustre ces notions, donc l'importance de cette stratification, avec des exemples concrets. Donc un exemple de propriété du premier ordre, donc dans O, d'ordre 0, c'est Napoléon et Corse. Donc ça, c'est une proposition d'ordre 0. Mais si on fait intervenir une proposition qui fait intervenir toutes les qualités, donc Napoléon a toutes les qualités d'un grand général, cette proposition-là va être dans O1 et pas dans O0. Bon alors, pourquoi cette stratification? C'est que Quand on forme une proposition en quantifiant sur toutes les propositions, on a un caractère circulaire et donc a priori proche des paradoxes. Donc Russell illustre ceci avec cet exemple suivant. Un anglais typique et un anglais qui possède toutes les propriétés de la majorité des anglais. Okay. Un anglais typique, en fait, si on suit cette définition, il doit être atypique. Cela montre qu'on doit introduire une stratification. Et donc c'est un paradoxe tout à fait similaire à celui des suites aléatoires. Si on essaye de définir une suite aléatoire comme une suite qui appartient à toutes les sous-parties mesurables de mesure 1, donc comme le complément d'un singleton est mesurable et de mesure 1, on obtient aucune suite ne peut être aléatoire. Tout à fait similaire donc à l'exemple de Russell. Cette hiérarchie sera une motivation pour Gödel donc d'introduire la notion d'ensemble constructible. L'idée de Gödel, ça va être d'itérer cette hiérarchie de manière transfinie. Donc on définira O oméga comme l'union de tous les ON, oméga O plus 1, O oméga plus 1 par les propositions qui sont obtenues par quantification sur les propositions dans oméga, etc. Et on peut montrer, donc si on fait cette hiérarchie ramifiée, on peut montrer qu'il existe un ordinal dénombrable tel que la hiérarchie se termine. Et donc, comme le remarque Gödel, l'axiome de réductibilité qui dit que toute proposition est équivalente à une proposition dans O0 est valable si on remplace O0 par O lambda. Donc l'axiome de réductibilité dit que toute proposition dans OK est équivalente à une proposition dans O0. C'est comme ça que Russell formule l'axiome de réductibilité. Russell propose de définir l'égalité en suivant donc une idée de Leibniz, qui est de définir l'égalité comme... Donc dans le système de Church, on peut vraiment définir l'égalité de cette manière-là. Donc A et B sont égaux si toute propriété de A est vraie pour toute propriété de B. Alors dans le système de Russell, donc comme on quantifie sur toutes les propriétés, on a un objet de type O1 et pas de type O0. Mais l'axiome de réductibilité dit que cette proposition-là est équivalente à une proposition dans O0. Donc en fait, introduire une égalité qui vérifie ce principe est en fait une application comme le signal Russell. Donc c'est un exemple de l'utilisation de l'axiome de réductibilité. Alors, en théorie dont des types avec univalence, cette hiérarchie va correspondre à une hiérarchie d'univers. Donc la hiérarchie d'univers introduite par Martin Loff. Donc ça correspond au fait qu'on interprète les propositions comme des types. Et on dira qu'un type est UK petit. Donc maintenant, s'il est équivalent, au sens de la théorie des types, à un type dans UK. Et Wovowski, en fait, introduit un axiome de redimensionnement qui est tout à fait similaire à l'axiome de réductibilité. Donc cet axiome-là dit qu'une proposition est U0 petite. Donc toute proposition, même si elle est a priori dans un univers très grand, est équivalente à une proposition qui est dans U0. Cet axiome est valide dans le modèle simplicial. Okay, donc c'est un axiome qui sera possible d'utiliser si on veut utiliser le modèle simplicial. Et en fait, techniquement, donc dès qu'on a le principe du tiers exclu, le principe du tiers exclu entraîne ce principe de redimensionnement. Et le principe du tiers exclu est valable dans le modèle simplicial. L'axiome de redimensionnement, donc, il est pour les propositions, il est probablement faux pour les ensembles. Donc le type des ensembles dans U0, c'est un groupoïde. Donc ce n'est pas un ensemble dans U1, mais le type des ordinaux dans U0 est un ensemble muni d'une structure d'un ordinal qui est dans U1 et qui est probablement non équivalent à un type dans U0. Donc l'axiome de redimensionnement est vrai dans le modèle simplicial, il est vrai pour les propositions, mais il est probablement faux pour les ensembles. Pour cela, donc, on a besoin d'utiliser la définition des ordinaux qui est présentée dans le livre qui présente la théorie des types univalentes. Et cette définition des ordinaux donc, provient de la thèse de Robin Gresson. Et c'est assez remarquable. En théorie des types, quand on forme une collection de structures, on s'attend à avoir un groupoïde et pas un ensemble. Et de manière surprenante, donc, pour les ordinaux, on obtient un ensemble et pas un groupoïde. Donc ça provient du fait que la structure des ordinaux est très rigide. Donc là, il y a un exemple de preuves qui sont imprédicatives ou une preuve prédicative. Un très bon exemple, c'est la preuve de symétrie de l'égalité. Donc si on veut montrer que l'égalité est symétrique, donc si on suppose A égale B et on veut montrer B égale A, une preuve imprédicative fera intervenir cette propriété G de X dit que A est égal à X. Donc ici, on utilise quelque chose qui, a priori, est dans O1 et pas dans O0. Donc l'imprédicativité dira qu'on considère cette proposition dans O0 et donc on pourra instancier le fait que A est égal à B, donc il dit que F de A implique F de B, on pourra l'instancier sur cette fonction G. On a G de A parce que A est égal à A. Donc j'aurais dû écrire X égale A, pardon, donc c'est un typo, donc je vais écrire. Propriété qu'on considère, donc c'est lambda X, X égale A. Donc cette propriété est vraie pour A, parce que A est égal à A, et donc elle doit être vraie pour B si A est égal à B. Donc ça c'est une preuve qui est imprédicative. Mais on a une preuve prédicative, donc qui utilise la propriété suivante qui est F de X implique F de A. Donc ça c'est bien dans O0 parce que F est de A dans O0 et cette propriété-là est vraie pour A parce que F de A implique F de A et donc elle sera vraie pour B, donc on a bien F de B implique F de A, donc on a bien pour tout F et donc on aura bien B égale A si A égale B. Donc là c'est un exemple qui montre que dans certains cas on peut éviter l'imprédicativité. Et ça, donc, Russell, dans la deuxième édition des Principia Mathematica, donne beaucoup d'exemples de cette nature. Donc, des énoncés qui ont d'abord une preuve imprédicative, mais qui peuvent être écrites en une preuve prédicative. Alors, en théorie des types avec univalence, on aura une situation analogue avec le principe de remplacement. Donc, le principe de remplacement dit que si on a une fonction f de A dans B, et que si A, si B est localement U petit, donc l'égalité dans B est U petite, et si A est U petit, alors l'image de F est U petit. Donc ça c'est le principe de remplacement tel que formulé dans la théorie des types avec univalence. Et ce principe est valable dans les modèles de manière prédicative. Donc ce principe-là permet très souvent de remplacer des preuves qui sont a priori imprédicatives, qui semblent nécessiter l'axiome de redimensionnement. On peut les reformuler de manière prédicative. Donc ce principe sera utilisé quand je vais définir donc, les espaces d'Eilenberg-MacLane. C'est un exemple de déloupage d'un groupe. Donc le déloupage d'un groupe dans un univers U0 sera défini comme le type des G-torseurs. Donc a priori, ce sera un élément dans U1, mais en appliquant ce principe de remplacement, en fait, ça devient un type dans U0. Donc on obtient des loupages en partant d'un groupe dans U0, ça sera encore un type dans U0. Alors cette question de mieux... Donc on voit dans certains cas, on peut remplacer des preuves qui semblent nécessiter l'imprédicativité par des preuves prédicatives. Et cette question de mieux comprendre l'imprédicativité va devenir fondamentale en théorie de la démonstration, et c'est très très bien expliqué dans le texte suivant de Martin Loff. Alors, dans le système de Church, donc on a les principes d'extensionnalité. Deux propositions équivalentes sont égales. Si deux fonctions sont égales point par point, elles sont égales. Et on doit introduire un opérateur de description, donc qui dit que si on peut nommer un objet s'il est défini de manière unique. On peut aussi formuler un opérateur de choix, donc l'opérateur de choix, par différence avec l'opérateur de cet opérateur iota, on n'a pas besoin de l'existence unique. La première version de Hilbert pour l'opération du choix était dual, donc c'était en fait c'est équivalent à ça, c'était un opérateur taux qui sélectionnait un objet tel que si on a P de taux de P, alors on a pour tout X P de X. L'opérateur de choix avec extensionnalité entraîne le tiers exclu. Donc, j'ai donné la preuve, mais je ne vais pas la présenter en détail, mais elle sera dans les transparents. Donc l'opérateur de choix, donc, une fois qu'on l'a, si on a aussi l'extensionnalité, on n'a pas besoin de postuler le tiers exclu. Alors, avoir un opérateur de description défini semble nécessaire en fait quand on veut représenter les mathématiques en utilisant la logique. Et ça, c'était vraiment bien remarqué donc, par le groupe Bourbaki. Donc Henri Cartan a un papier sur le fondement logique des mathématiques dans lequel il insiste sur la nécessité d'avoir ce principe de description définie qui s'appelle aussi principe du choix unique. Donc on a... Bourbaki utilise à la place un opérateur de choix. Et Bourbaki l'écrit tôt. Malheureusement, donc il utilise le symbole tau à la place du symbole epsilon, mais avec le sens du symbole epsilon. Donc il choisit, si on a existence d'un objet, cet opérateur choisit un objet. Et pourquoi il choisit tau? C'est parce que le symbole epsilon était déjà pris pour le symbole de l'appartenance. Mais dans les remarques, donc dans le livre sur l'histoire des mathématiques, il remarque explicitement que cela permet de se dispenser d'avoir à formuler un opérateur de description définie. Alors, remarque, pour les gens qui connaissent la théorie des types, donc en théorie des types, on peut penser à utiliser le type somme, sigma x dans B, pour exprimer l'existence. D'accord ? Donc c'est une existence forte, parce que avoir un élément de ce type, c'est on a vraiment le témoin explicitement. Et on a alors une forme de l'axiome du choix en utilisant la deuxième projection. Donc c'est ce que suggère Howard, puis Martin Loff. Mais en fait, on obtient un opérateur de choix général avec cette interprétation. Donc ça correspond aussi à une remarque de Bishop qui dit que si on interprète l'existence comme existence forte, l'axiome du choix général est prouvable. Comme ça. Donc dans la théorie des types, si on a un type sigma, on n'a pas vraiment besoin d'introduire un opérateur de description définie, comme dans le système de Church. Avec l'univalence, la situation est plus subtile. Donc, à la place de ce type-là, donc on a vraiment une notion d'existence faible. Donc, on peut exprimer qu'on a une existence sans donner explicitement le témoin. Donc, on utilise le type qui exprime que ce type-là est contractile pour exprimer l'existence unique. Donc, le principe du choix unique est prouvable. Mais avoir un opérateur de choix est incompatible avec l'univalence. Donc avoir un opérateur de choix, donc, intuitivement, c'est parce que l'opérateur de choix doit être invariant par automorphisme, et ça, ce n'est pas possible. Donc dans le système Koch, il y a une forme constructive du principe du choix unique qui est ajoutée dans le cas d'une propriété décidable sur les entiers. Dans ce cas, on n'a pas besoin de l'unicité. Donc, parce que si on a une propriété décidable pour les entiers, on peut remplacer cette propriété P de X par la propriété Q de X qui exprime que X est le plus petit X tel que P de X, et là cet entier-là sera déterminé de manière unique. Donc, on ramène l'axiome du choix général dans ce cas-là à l'axiome du choix unique. Cet ajout semble être utilisé de manière essentielle dans la preuve du théorème de l'ordre impair. Et ce principe est aussi utilisé donc, dans les travaux récents de Yannick Foster, Dominique Kirst sur la théorie de la calculabilité. Donc, autant que je puisse le juger, la propriété de normalisation pour le système avec cette opération n'a pas été encore étudiée. Le principe du choix unique dans le système Koch n'est pas vérifié en général. Donc, le système Lean ajoute un opérateur de choix général et le principe d'extensionnalité pour les fonctions. Mais en fait, dans le système Koch, l'extensionnalité, même pour des exemples qui, a priori, n'ont pas besoin d'utiliser l'extensionnalité pour les fonctions, cette extensionnalité en pratique est très commode. Donc, par exemple, dans la preuve, une preuve récente sur les machines de Turing, cette preuve-là fait appel à un axiome qui est l'axiome de l'extensionnalité pour les fonctions. Donc, parce qu'on définit une machine de Turing va être définie comme une machine de Turing va donner une fonction du type des états et des symboles dans type des symboles, direction et état plus 1. Et l'extensionnalité, en fait, le principe d'extensionnalité est utilisé aussi pour les preuves sur les compilateurs. Donc l'extensionnalité est un axiome qui est utilisé dans le projet CompCert. Donc je crois, mais je dois vérifier, que la preuve du théorème des quatre couleurs, elle, est écrite dans un système sans axiome. Donc un point très important de ce cours, c'est qu'avec univalence, le principe de description définie et l'extensionnalité deviennent prouvables. Donc on n'a pas besoin d'ajouter de nouveaux axiomes. On peut construire un modèle effectif et prédicatif qui justifie univalence, remplacement, l'axiome du choix dépendant et une forme faible du tiers exclu, qui est le principe qui s'appelle Limited Principle of Omniscience, qui dit que pour une propriété décidable sur les entiers, on peut décider si la propriété est valable pour un entier ou est fausse pour tous les entiers. De construire ce modèle donc de manière intéressante, donc pour avoir un modèle qui justifie le principe du choix dépendant, en fait, c'est une utilisation d'avoir un modèle qui capture la notion de type d'homotopie de manière satisfaisante. Donc ça, cette notion qui, a priori, est une notion purement géométrique, et en fait, logiquement, est intéressante. Donc si on veut avoir un modèle qui vérifie l'axiome du choix dépendant, on a besoin d'avoir une telle propriété. Et ces axiomes donc, sont tout à fait suffisants pour développer l'analyse. Donc on n'a pas besoin de l'axiome du choix général, on a juste besoin de l'axiome du choix dépendant et de cette forme faible de la logique classique. Dans le système de Russell, sans extensionnalité, on ne peut pas identifier les fonctions propositionnelles et les sous-ensembles. Donc dans la première version de Principia Mathematica, donc, on a besoin de faire une distinction entre un prédicat et le sous-ensemble qu'il définit. Et Russell introduit cette notation pour le sous-ensemble déterminé par une fonction propositionnelle. Et on peut avoir deux prédicats qui sont logiquement équivalents, mais distincts, si on n'a pas extensionnalité, qui vont définir le même sous-ensemble, la même classe. Et cette notation-là est sans doute la source de la notation de l'abstraction en lambda calculé. Comme je l'ai dit dans la leçon inaugurale, donc Church, a priori, donc dans le système de Russell, on ne pouvait former que des fonctions propositionnelles qui rendaient des valeurs de vérité, Church étant cette notation pour des fonctions générales qui ne produisent pas nécessairement des valeurs de vérité, donc le type des fonctions ou le type, par exemple, l'opérateur de choix à ce type-là. Il utilise même la notation de lambda calcul pour représenter des entiers. Donc c'est tout à fait surprenant. Dans Church, il utilise, par exemple, il code un entier comme une opération d'itération. Ce lambda terme va représenter l'entier 2. Dans son papier de 1941, le type des entiers n'est pas N, le type des individus, mais ce type-là. Voilà. Donc ça, il y a sans doute une influence... cette influence-là qui donne des exemples en fait, de comment on peut calculer la multiplication sur les entiers avec cette représentation des entiers, en représentant les entiers comme opérateurs d'itération. Comme je l'ai dit, le système de Russell utilisait une stratification, l'axiome de réductibilité. Donc c'est Ramsey, dans les années 20, qui remarque qu'en fait on n'a pas besoin d'introduire cette stratification, on peut simplement dire que l'opération de quantification va être de ce type-là. Ça revient à ajouter l'axiome de réductibilité. L'interprétation, c'est d'interpréter le type des valeurs de vérité comme le type 0 et 1 et les fonctions comme des fonctions arbitraires. Donc c'est la version qui est décrite par Church. Alors, rapport avec la théorie des ensembles. Donc Gödel, dans son papier sur l'incomplétude, il fait référence, il dit que c'est l'incomplétude pour Principia Mathematica. Mais en fait, il présente une version simplifiée de Principia Mathematica avec seulement ces types-là. Donc on part du type des individus et on itère le type des prédicats. Alors pourquoi il pouvait faire ça? C'est parce que Norbert Wiener, donc celui qui a travaillé en analyse, donc avant de faire de l'analyse, il était étudiant en fait de Russell et il a travaillé sur le système de Principia Mathematica et il avait montré comment on pouvait coder la paire uniquement en utilisant ces types-là. Donc en théorie des ensembles, on utilise un codage qui est différent, qui est le codage introduit par Kuratowski, qui code la paire comme cet ensemble-là. Et pour former cet ensemble, on a besoin que de types de cette forme-là. Et dans ce système, l'extensionnalité devient le principe suivant, qui dit que y est égal à z dans ce type-là, si et seulement si y et z ont les mêmes éléments. Donc on voit l'analogie avec le premier axiome de la théorie des ensembles qui énonce qu'un ensemble est déterminé par ses éléments. Donc là, j'ai rajouté deux transparents qui insistent sur le caractère très naturel. Le premier transparent donc, insiste sur le caractère très naturel de la théorie des types. Et en fait, la théorie des types de Church donc, a été pratiquement ignorée par les mathématiciens avec quelques exceptions. Donc une exception, c'est Alan Turing qui était vraiment... très intéressé par ce système, qui a écrit beaucoup de papiers sur le système de Church et qui insiste sur le caractère naturel d'introduire cette stratification des objets mathématiques. Et le deuxième transparent que j'ai mis, donc, c'est une citation d'Anna Scott, donc, qui insiste sur le fait que la théorie des ensembles se comprend très bien et motivée en fait, par une théorie des types. Donc on peut voir la théorie des ensembles comme une itération de se former des sous-ensembles de manière transfinie. Donc, comme dans le système de Gödel, simplification de Principia Mathematica, mais avec une itération transfinie. Alors, donc, l'axiome d'extensionnalité, en fait, il n'est pas vraiment un axiome dans le système de Church. Il énonce seulement l'extensionnalité pour les fonctions. Il signale juste qu'on pourrait le rajouter si on le voulait. Donc, c'est une possibilité d'ajouter ces axiomes. Et en fait, si on regarde la formulation de cet axiome, donc c'est très très proche de ce qu'écrivait Russell en 1925. Donc, et là, comme je l'ai dit dans ma leçon inaugurale, donc la motivation de Russell, c'était que chaque fois qu'on forme une fonction, si on écrit une fonction en utilisant les opérations logiques, en fait, cette fonction va respecter l'équivalence logique. Donc, par exemple, si on forme non P, si on a P est équivalent à Q, on aura non P équivalent à non Q. Donc, pour la fonction négation, on va vérifier ce principe-là. Donc, pour toute fonction que l'on écrit, on a ce principe-là. Le problème, c'est que ce principe-là n'est pas valable si F est une variable. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de rajouter l'extensionnalité. Alors, donc ça, c'est ce que je viens de dire, c'est l'essence de la technique des relations logiques qui permettent de montrer que le principe d'extensionnalité est valable. On peut construire un modèle où le principe d'extensionnalité est valable. Dès qu'on a un modèle de la théorie des types simple, on a un modèle où l'axiome d'extensionnalité est vérifié. Donc, il est plus difficile d'expliquer l'axiome de description définie. Donc, une tentative d'explication est dans un papier de Russell, mais cette explication n'est pas compositionnelle. Donc, un point très important, c'est que les modèles de l'univalence vont vraiment donner une nouvelle justification de cette opération de description définie, qui maintenant va être compositionnelle. On peut justifier la logique classique donc, par une technique de double négation. Et l'axiome du choix général, donc il est justifié par la technique des ensembles constructibles de Gödel. Donc je vais présenter maintenant la logique minimale. Donc c'est une autre version de la théorie des types qui provient des travaux de Girard et de Martynov. Mais cette version-là donc, est un peu différente de la version que je vais présenter. Donc dans cette version, on a seulement, si on a seulement un type de base des valeurs de vérité, en fait, on peut décrire les types que l'on peut former. Donc au lieu de les décrire par cette grammaire-là, donc, on peut utiliser la grammaire suivante. cette grammaire-là. Donc en disant que pour n égale 0, ce type-là représente le type des propositions. Et c'est cette formulation-là qu'utilisent Girard et Martynov. Donc si on veut faire le rapport avec la connexion avec la version que je voudrais présenter. Donc avec la version minimale de la théorie des types, où l'on n'a pas l'axiome d'extensionnalité, on n'a pas la logique classique, mais c'est fondé sur l'implication. Et donc c'est... la formulation, c'est cette formulation-là. Donc X, c'est un contexte de cette forme-là. Et gamma représente une liste de propositions, donc la liste des hypothèses. Et les lois sont les lois que vous devez connaître sans doute. Donc les lois de l'implication, introduction de l'implication, la loi de modus ponens et la loi d'introduction du quantificateur universel et la loi d'élimination du quantificateur universel. Donc comme je l'ai dit là, donc cette version c'est une version minimale, mais à partir de là, donc par la technique de double négation, on peut interpréter la logique classique. Et par la technique des relations logiques, on peut interpréter l'axiome d'extensionnalité. Alors avec un traitement uniforme des termes et des preuves, donc c'est le système F oméga de Jean-Yves Girard, donc on introduit une notation pour les preuves. Donc la notation pour l'introduction de l'implication, ça va être l'abstraction du lambda calcul. Et la notation pour la preuve du modus ponens va être l'application du lambda calcul. Et on peut utiliser donc les mêmes notations du lambda calcul pour l'opération d'introduction de quantificateur pour tout et l'élimination du quantificateur pour tout. Alors, donc si on lit la thèse de Girard, ou son papier... le premier papier où il introduit système F oméga, donc il utilise une notation différente. Il a une notation différente pour les termes et les preuves. Donc ça, c'est quelque chose. D'avoir une notation uniforme, c'est une idée qui vient d'automate. Donc Girard prouve que les lambda termes que l'on forme de cette manière ont tous la propriété de normalisation. Donc tous les termes qu'on forme de cette manière vont terminer par bêta réduction. La preuve de terminaison ne peut pas se faire dans l'arithmétique d'ordre supérieur. Donc la théorie d'ordre supérieur, de l'arithmétique d'ordre supérieur, peut être vue comme la théorie où on a un type des individus, un axiome d'infinité. Donc ça c'est la normalisation de ce système-là. La preuve de cohérence de ce système est élémentaire. Parce qu'on peut interpréter le type des valeurs de vérité comme le type 0,1 et on a un modèle fini où tous les types sont finis et qui est un modèle de cette théorie-là. Donc il faut faire très attention à faire la distinction entre la preuve de cohérence de ce système, système de Church, et la preuve de... donc la cohérence du système est élémentaire, mais la normalisation, elle, n'est pas élémentaire. Elle entraîne la cohérence de l'axiome de l'infini. Alors, en théorie des types, si on a un univers U0, l'axiome d'infini devient prouvable. Donc, l'axiome, en utilisant ce type-là. Donc, on peut considérer que l'axiome d'infini est justifié de manière purement logique. Donc, ça, c'est aussi une remarque que Russell fait. Russell, au début, il pensait qu'il pouvait montrer l'axiome d'infini. Après, il se rend compte que dans son système, en fait, l'axiome d'infini n'est pas prouvable. Mais en 1911, il a une remarque que, en fait, ça provient de la formulation de la théorie des types, et par une modification de la théorie des types, on doit pouvoir prouver le principe d'infini. Donc c'est le cas si on introduit ces types transfinis, en fait, où on quantifie sur tous les types. Alors l'impact des travaux de Girard, donc quand il montre cette propriété de normalisation, donc c'est ça qui va donner naissance à la théorie des types, en fait, indirectement. Donc, parce que ce problème de l'imprédicativité, sous la forme de est-ce qu'on pouvait avoir une preuve de normalisation de ce système de la logique d'ordre supérieur, était étudié systématiquement dans les années 60 par Prawitz et Martynov. Donc, mais leur méthode d'attaque de ce principe, c'était en fait de mieux comprendre l'hiérarchie des ensembles constructibles qui modèle l'analyse, donc si on va assez loin. Donc c'était l'attaque qu'ils avaient, donc, qui est très bien décrite dans ce papier de Dag Prawitz. Et le résultat de Girard, donc, qui montrait la normalisation par une technique donc, que je vais présenter dans la troisième leçon, était vraiment surprenante et donc a été étudiée très en détail par Prawitz et Martynov en juin, dès qu'elle a été annoncée, donc en juin 1970. Et donc en fin des années 60, donc il y avait, c'était une période très très riche où il se passait beaucoup de choses en logique, donc cette preuve de Girard. Il y avait Howard avait formulé ce principe d'analogie entre les propositions et des types, qui va aussi inspirer donc Martynov. Et il y avait les travaux de Brun, de manière tout à fait indépendante de Howard, qui avait remarqué cette analogie entre les propositions et les types. Et Scott visite Amsterdam en 1968, et donc ça l'inspire en formuler une version de la théorie des types qui est tout à fait remarquable dans ce papier sur 1, donc où il formule une version de la théorie des types. En suivant les idées d'Howard et la preuve de normalisation de Girard, Martynov a l'idée de formuler un système pour représenter les mathématiques constructives. Et c'est donc, voici les motivations de Martynov pour formuler son système. Première motivation, c'est quantification sur les propositions, ce qui était motivé par le travail de Girard. Donc c'est qu'on pouvait quantifier sur les propositions, et comme Girard avait une preuve de normalisation, donc en particulier une preuve de cohérence, ça justifiait le fait qu'on pouvait quantifier sur des propositions pour former des propositions, caractère imprédicatif. Deuxième motivation, point, c'est que les domaines de quantification forment des types. Donc ça, c'est la doctrine des types de Russell. Donc un type est défini comme le domaine de d'une quantification. Et finalement, le troisième principe, donc, que Martynov venait d'apprendre de Howard, était l'identification des propositions et des types. Donc Martynov cite ces trois points pour motiver la formulation d'un système de type avec un type de tous les types. Donc le type des propositions, si on identifie les propositions et les types, c'est naturel de considérer qu'on a un type de tous les types. Alors, pourquoi ce n'était pas absurde? C'était qu'en théorie des types, on ne peut pas former le paradoxe de Russell. Parce qu'en théorie des types, donc on fonde des propositions qui sont des objets de type O, mais l'assertion qu'un objet est d'un type donné n'est pas un objet de type O. Donc on ne peut pas former la négation de cette assertion. Donc c'est une assertion qui n'est pas représentée par une proposition, donc il n'est pas du tout absurde d'essayer d'avoir un système avec un type de tous les types, parce qu'on ne peut pas former le paradoxe de Russell. Une autre motivation de Martynov, c'était de pallier donc aux limitations du calcul de Church. Dans le calcul de Church, on ne peut pas quantifier sur des types quelconques et on ne peut pas former des types de structures mathématiques. En fait, comme Martynov le remarque, donc maintenant on va pouvoir reprendre l'idée de Church, mais maintenant on va pouvoir former un type qui va être le type des entiers. Et on peut former zéro, successeur, et dans un système avec type de point type, on peut montrer l'axiome de l'infini. Donc comment garantir la cohérence de ce calcul? Donc c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant. Donc il n'y a pas de modèle clair en théorie des ensembles. Donc ce système-là avec un type de tous les types, on ne peut pas interpréter en théorie des ensembles, on a le paradoxe de Russell, et on obtient un système qui est plus fort que Zermelot, parce qu'on a l'axiome d'infini, et on a quantification sur des types arbitraires. Donc, comme je vais le montrer dans la quatrième leçon, on peut traduire le système de Zermelot dans ce système-là. Donc, comment garantir la cohérence? Eh bien, en fait, ça va être en utilisant la preuve de normalisation. Donc, c'est un exemple vraiment qui suit les idées de Hilbert. Hilbert avait l'idée de montrer donc, la cohérence d'un système, la non-contradiction, de manière, en utilisant la théorie de la démonstration. Donc ça, c'est un très bon exemple de cette méthode. Alors, donc Martynov trouve en fait plus naturel d'ajouter un type primitif des entiers et aussi le type somme. Et donc, comme je l'ai dit, donc pour montrer la cohérence de ce système, comme on n'a pas d'interprétation en théorie des ensembles, on va essayer de montrer la normalisation. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que Martynov arrive à montrer la preuve de normalisation de ces systèmes en suivant l'idée de Girard qui venait de montrer la normalisation du système F oméga. Donc la technique des candidats de réductibilité que je vais présenter dans la troisième leçon. Et cette preuve est formellement correcte. Donc on reprendra cette preuve dans la troisième leçon, une preuve qui peut être vue comme une application de la technique du recollement d'Artin. Et donc il n'y a pas, bien sûr, Martynov connaissait le théorème de Gödel. Cette preuve-là se fait dans un système plus fort où on rajoute un principe de réflexion. Donc si on peut montrer P de n pour chaque entier donné n, P est une propriété décidable, alors on ajoute pour tout x P de x. Donc là, on renforce le système, et c'est dans ce système, donc dans une métathéorie qui ressemble à un système de type avec un type de tous les types, étendu avec ce principe de réflexion, c'est dans ce système-là que Martynov montre la normalisation de son système. Donc là, on a une situation très intéressante au point de vue épistémologique, c'est qu'on a une preuve de normalisation, donc de cohérence, qui est formellement tout à fait similaire à la preuve de cohérence que Girard avait pour la théorie de Church, mais de manière tout à fait surprenante, donc Girard obtient un paradoxe dans ce système. Okay. Et donc je le dis, c'est surprenant parce que cette preuve-là est formellement similaire à la preuve de cohérence de Girard. Alors voilà, formulation du système de type de Martynov. Donc c'est une formulation très très simple, formellement très simple. Donc on a les règles pour former des contextes d'abord. Donc si un contexte est correct, donc ça c'est la règle de formation de contexte. Si A est un type qui est correct dans le contexte gamma, on peut rajouter une hypothèse X de type A dans ce contexte-là. Si gamma est correct, on a type de point type dans ce contexte. Ça, c'est la règle de formation du type pour tout, ou type dépendant, produit dépendant. Ça, c'est la règle de variable, la règle d'abstraction et la règle d'application. Donc, c'est, formellement, c'est un calcul extrêmement élégant. Et finalement, on a cette règle-là, qui est la règle que si A et B sont convertibles au sens du lambda calcul, et si T est de type A, et si B est un type, A et B sont convertibles, alors T est aussi de type B. Donc on peut représenter ce système-là de manière très très courte, et formellement très courte. Donc le papier où Martynov présente cette théorie des types est disponible sur le net, je conseille donc de le lire si on veut avoir une idée de comment est née donc la théorie des types dépendants. C'est un papier très très clair et qui a beaucoup de résultats donc qui ont été utilisés par la suite indépendamment de cette présentation de la théorie des types. Donc par exemple la preuve de confluence qui est maintenant utilisée pour le lambda calcul qui provient de Church est présentée pour la première fois dans ce papier. Cette propriété de confluence est essentielle pour montrer la préservation des types par bêta réduction. Martynov présente une preuve de confluence qui utilise donc une relation définie inductivement qui décrit une version parallèle de la bêta réduction. Et cette preuve est citée par Gordon Plotkin comme une des motivations pour la sémantique opérationnelle. Martynov a aussi un papier qui contient la première présentation des types inductifs en théorie des types, ce papier-là. Aussi, donc, pourquoi je conseille ce papier, c'est qu'il y a une preuve très très claire du fait que si on a normalisation, alors il y a un algorithme pour décider le jugement de typage. Un tel algorithme était aussi décrit par Debrun pour automates, mais Martynov, dans ce papier, donne une preuve de correction de cet algorithme-là. Donc c'est une preuve dépendante de la normalisation. Bon, la normalisation n'est pas valable, mais cet argument que le typage est décidable sur la normalisation va être valable et sera utilisé pour tous les systèmes de type qui sont utilisés maintenant. Alors, comment Girard a découvert son paradoxe ? Donc, ce n'est pas en essayant de former le paradoxe de Russell, c'est qu'il montre En fait, Martynov, dans ce papier, montre comment traduire le système f oméga dans ce calcul. Donc, en fait, il y a une... quand on regarde les règles du système f oméga et les règles de ce système de type, on voit qu'il y a une traduction directe de f oméga dans ce calcul. Et donc, Girard remarque qu'en fait, ce calcul donne une traduction d'un système beaucoup plus fort que celui de f oméga. Donc le système de Church, où on pouvait quantifier sur ces types-là. Donc dans ce système-là, on va pouvoir quantifier sur des types qui font intervenir une quantification sur tous les types. Et donc c'est un système qui étend le calcul de Church avec un système de type beaucoup plus riche. Et donc intuitivement, ces types sont trop gros et on doit s'attendre à une contradiction suivant Burali-Porti. Et donc c'est ce que fait Girard. Donc si on a un type somme, comme Martynov a ajouté, et le type des entiers, on a une version assez directe en fait, du paradoxe de Burali-Forti en utilisant le type des relations d'ordre strict bien fondé. Donc si on a ce type somme, Martynov va le décrire dans un papier en 72. Une fois qu'on a l'idée que le paradoxe de Burali-Forti doit être valable dans ce système, c'est une preuve très très simple de ça. Donc sur ce type de tous les types d'ordre strict bien fondé, on a une relation bien fondée, on a une contradiction en suivant Burali-Forti. Et donc on a une contradiction, on construit un terme de ce type-là. C'est-à-dire, en fait, tous les types deviennent habités. Et un terme de ce type-là ne peut pas avoir de forme normale. Donc en fait, comme corollaire de ce paradoxe, on construit effectivement un terme qui n'a pas de forme normale. On peut en fait suivre une autre route pour avoir une contradiction. Donc on peut suivre aussi la preuve de Reynolds qu'il n'y a pas de modèle ensembliste du polymorphisme. Et cette version est une preuve très courte décrite dans ce papier de Hurkens. Et ça, c'est un sujet, donc l'étude des paradoxes dans ce système est encore un sujet de recherche. Donc, dans ce papier, j'ai donné une variation du paradoxe de Hurkens. Et aussi, il y a une version de ce paradoxe en théorie des topos qui a été décrite par Andy Pitts. Et finalement, Alexandre Michel, dans sa thèse, en fait, montre comment on peut exprimer le paradoxe de Russell en précisant les rapports entre théorie des types et théorie des ensembles. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Girard, lui, n'avait pas le type somme. Il donne un paradoxe dans la version minimale de la théorie des types que j'ai présentée, seulement avec le type pour tout. Et sa version du paradoxe de Burali-Forti est très intéressante, parce qu'en fait, c'est une version avec des ordres, ce qu'il appelle des ordres sans torsion. C'est une relation d'ordre strict qui sont extensionnelles. Donc si on a deux éléments qui déterminent des segments initiaux isomorphes, ces éléments sont égaux. Et ça, c'est exactement la condition cruciale de la notion d'ordinal qui est utilisée dans le livre sur la théorie des types univalente. Donc il n'y a pas de condition que l'ordre soit bien fondé, et malgré ça, il arrive à construire une contradiction. Comme il n'y a pas de type somme forte, il est obligé d'utiliser un codage de type somme, mais en fait qui ne donne un codage que de la formulation faible de l'existence. Donc son argument est très subtil, car il a une existence faible, mais malgré ça, il arrive à construire un paradoxe. Une fois qu'on a un paradoxe dans ce système, on peut démontrer que le typage, non seulement le système n'est pas normal, on a un système qui est contradictoire, qui n'est pas normalisable, mais le jugement n'est pas décidable. Donc en fait, on ne peut vraiment pas utiliser ce système-là comme système de preuve. Donc, l'analyse de ce paradoxe. Donc là, ça va faire un choc pour Martynov. Donc, et un choc aussi pour comme je l'ai dit, donc le caractère... le statut de ces preuves de cohérence en utilisant la théorie de la démonstration. Donc il y a vraiment une situation unique où quelqu'un arrive à montrer une cohérence en suivant l'idée du programme de Hilbert, mais malgré ça, le système est contradictoire. Alors, comme je l'ai rappelé, donc je rappelle les trois points qui motivaient Martin Lof pour formuler sa théorie des types. Donc, c'est quantification sur les propositions, donc l'imprédicativité, ce qui était motivé par le travail de Girard, que les domaines de quantification forment des types, donc ça c'est la doctrine des types de Russell. Le troisième point, donc, c'est l'identification des propositions et types que Martin Lof venait d'apprendre de Howard. Donc ces trois points ensemble sont contradictoires. Donc là, cela nécessite une analyse. Donc quel est le point qu'on doit enlever, Et là, donc, il va y avoir deux directions différentes. La solution de Martin Lof, donc, c'est de, comme il considère que le principe d'identification des propositions et des types est absolument fondamental. Donc le point 3 doit rester. Le point 2, que les domaines de quantification forment des types, donc ça aussi c'est très difficile à éviter. Donc en fait le problème, d'après Martin Lof, c'est vraiment l'imprédicativité, la quantification sur les propositions. Donc la solution pour Martin Lof, donc, c'est de ne pas permettre le point 1. Donc on ne va pas avoir de quantification sur les propositions et on va avoir un calcul donc, prédicatif. Une autre possibilité, donc, c'est de modifier le principe 3, c'est de considérer que les propositions sont des types, mais la notion de type est plus générale que la notion de proposition. Donc là, ça va être une autre direction pour les systèmes de type qui sont maintenant utilisés dans le système Koch ou dans le système Lean. Donc la formulation du calcul de Martin Lof, donc la nouvelle version, version prédicative, donc c'est d'introduire, c'est vraiment très similaire donc, à la stratification de Russell, originale de Russell, c'est qu'on va stratifier le type des types en une hiérarchie d'univers. Et donc c'est présenté dans ce papier-là. Et dans ce papier, donc, Martin Lof signale l'analogie avec la notion d'univers introduite par Grothendieck en théorie des ensembles. Donc chaque univers réalise un principe de réflexion. Donc chaque univers va être clos par les opérations de la théorie des types, donc le type somme, le type produit, il va contenir le type des entiers. Mais si on a une quantification qui fait intervenir U0, on obtiendra un type dans U1 et pas dans U0. Exactement donc, comme dans le système de Russell. Alors comme dans le papier 1971, Martin Lof ajoute les types inductifs et le type somme. Et donc là, on voit qu'il y a déjà, il commence à y avoir des problèmes. Donc c'est pour ça qu'introduire la théorie des types avec la notion de modèle, ce que je vais faire dans la deuxième partie, va être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus solide. C'est qu'en fait, on se rend compte, quand on essaye de formuler la théorie des types, qu'il va y avoir des variations syntaxiques qui ont l'air complètement non pertinentes, mais qui sont... dont on doit tenir compte. Donc, par exemple, dans le calcul avec le type somme, on n'a pas d'inférence de type. Donc, et par raison d'uniformité, Martin Lof va enlever le type dans l'abstraction aussi. Donc, on n'aura pas d'inférence de type, mais on aura quand même un algorithme de typage convenable. Mais on commence à avoir des variations, et donc tout ça, ça va être beaucoup plus... solide quand on présente la théorie des types à travers la théorie des modèles. C'est ce que je vais faire. Donc la deuxième option, c'est de considérer qu'une proposition est un type, mais n'est pas nécessairement. Il n'y a pas d'identification entre les types et les propositions. Donc ça, c'est le calcul des constructions, où on introduit un type des propositions qui est différent du type de tous les types. Et donc cette formulation-là est formellement très similaire en fait à la version avec un type de tous les types. Seule distinction, c'est qu'on fait la distinction entre proposition et type. Alors cette version-là contient la logique d'ordre supérieur. Il est très proche du système avec type de point type. Donc en fait, on peut suivre. Donc j'ai dit que Girard pour former son paradoxe, donc il utilisait le type existentiel, qui est une version faible du type des sommes. Et en fait, ce type existentiel est formulable dans cette version de théorie des types. Donc, avec un type de proposition. Donc il semble qu'on peut former le paradoxe de Girard. Mais en fait, donc, il y a une preuve de cohérence assez simple. Donc l'idée intuitive, c'est que ce type de proposition peut être interprété par le type 0,1. Donc on a une preuve de cohérence en donnant une interprétation où tous les types sont interprétés par des types finis. Mais en fait, donc là, ça aussi, c'est un des problèmes de cette formulation de la théorie des types à travers cette formulation. C'est très difficile techniquement de rendre précise cette idée intuitive qu'on doit avoir un modèle de ce système-là où on interprète les types par des ensembles finis. Donc si on essaye techniquement de rendre précise cette intuition, on a des problèmes techniques. Donc ça va être aussi une autre motivation de présenter la théorie des types à travers la théorie des modèles. Donc avec cette présentation, on peut, donc c'est non trivial, mais on peut justifier qu'on peut donner une interprétation de ce système-là où les types sont interprétés par des types finis et une preuve de cohérence. Mais donc, il y a une preuve de cohérence de ce système très élégante, purement syntaxique, qui a été découverte par Christine Collin. Donc Christine Collin remarque que donc, ce système-là, il y a un plongement naturel de f oméga dans ce calcul, mais en fait on peut définir un inverse à gauche qui est très naturel. Donc cet inverse à gauche, donc c'est simplement oublie les dépendances de type. Ceci montre que ce plongement est conservatif, et donc comme f oméga lui a un modèle direct qui montre la cohérence uniquement avec des types finis, on ne peut pas montrer une contradiction dans ce système-là. Donc l'étude, comme je l'ai dit, donc les problèmes, donc ce qui va motiver la deuxième leçon, donc la présentation des théories des types à travers la notion de modèle de théorie des types. Donc c'est l'étude de ces systèmes sans trop dépendre de choix syntaxiques qui ne devraient pas conceptuellement jouer un rôle. Donc par exemple, j'ai dit que Martynov présente la propriété de confluence. Une preuve de cette propriété-là, donc, mais c'est une preuve qui ne va pas être stable. Donc si on modifie un peu les règles de la théorie des types, on ne pourra plus prouver cette confluence-là. Donc c'est tout à fait non solide comme genre d'argument. Ensuite, quand on veut formuler les règles d'univers, il y a aussi des variations syntaxiques possibles. Donc il n'est pas si clair. Troisième problème, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'est pas si clair comment donner des modèles de ce calcul-là. Donc à la place, donc on va avoir une étude systématique des modèles, ce qui va être fait dans la prochaine leçon. Voilà. Donc je voudrais terminer ce cours-là par un exemple que je trouve joli, qui illustre le fait que ces systèmes-là formulent de manière très concise les règles de ce système logique. Donc là, c'est tout à fait similaire donc, à la bibliothèque de Babel, donc, qui liste tous les livres possibles de taille donnée. Donc le problème avec la bibliothèque de Babel, c'est qu'on ne peut former les livres qu'on va former dans cette bibliothèque peuvent ne pas avoir de sens, donc peuvent être formulées des choses qui sont complètement arbitraires. Alors quand on a un système de type, donc on peut vérifier, on ne forme que des objets qui sont formellement corrects. Donc on ne va former que des preuves qui sont correctes. Donc l'idée que je veux présenter, c'est une illustration du fait qu'on peut reformuler cette idée de la bibliothèque de Babel, mais au lieu de lister tous les livres possibles, on va lister tous les termes possibles corrects dans ce système-là. Donc dans ce système... Donc on peut former dans ce système que je viens de présenter, donc système du calcul des constructions, on peut former le type des entiers, on peut former le type des ordinaux, et on peut former des suites de fonctions qui croissent très très rapidement. Donc voilà un exemple, donc ça c'est la hiérarchie du mathématicien Hardy. Donc ça c'est une fonction qui n'est pas probablement totale dans Peano, et qu'on peut former de manière très très courte dans ce système-là. Donc si on arrive à concevoir des systèmes de notation des systèmes de notation pour dénoter des entiers, on va pouvoir écrire de manière très concise des entiers très grands. On peut décrire des entiers très grands de manière concise dans ce système. Mais ceci suppose la création de hiérarchies de fonctions et d'ordinaux. Donc il faut réfléchir pour mettre au point ces systèmes de notation. Alors est-ce qu'on peut faire mieux ? Ça c'est un exemple, donc une technique pour faire mieux que ça, qui a été mise au point par Ralph Loder, qui a résolu, donc c'était cette compétition qui était d'écrire de manière très courte, donc dans un programme C avec moins de 512 caractères, d'écrire un entier qui était le plus grand possible. Donc il y a eu plusieurs. Et les gens avaient une semaine pour faire ça. Et les gens devaient présenter leur programme avec une motivation pour ce programme-là. Donc beaucoup de gens ont essayé d'utiliser cette technique des systèmes de hiérarchie de fonctions. Donc par exemple Ackermann ou la hiérarchie de Hardy pour former de manière très courte des entiers très grands. Et Ralph Loder à la place, donc ce qu'il a écrit en moins de 512 caractères. Donc c'est un programme qui fait un parseur, un algorithme de typage et un interpréteur et liste tous les termes pour le calcul que je viens de présenter. Et tout ça en moins de 512 caractères. Ça, c'est tout à fait similaire à la bibliothèque de Babel. Donc je ne vais pas essayer de concevoir un système de notation très ingénieux, mais à la place, je vais lister toutes les notations possibles. Loder écrit un tel programme, et on obtient de cette manière un programme qui décrit un entier gigantesque sans avoir à trouver un système de notation ingénieux. Parce que ce système-là va faire une liste. En fait, dans ce système-là, comme la taille de ces programmes est choisie très grande, dans cette liste-là, il va apparaître la hiérarchie de Hardy, il va apparaître peut-être la preuve du théorème de Fermat. Donc je vais avoir toutes les preuves possibles. Et c'est ce programme-là qui a gagné cette compétition-là. Et je voudrais m'arrêter par cet exemple. Ouais.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.